Merci pour ce culte et merci pour nos monitrices qui ont pu partager ce temps avec nos enfants. C'était important que nous ayons nos enfants avec nous aujourd'hui et qu'en plus ils puissent avoir l'opportunité et l'occasion de vivre aussi ce temps de culte avec un message spécifique à eux. Et nous sommes reconnaissants à Dieu parce que nos monitrices ont pu aussi se préparer pour la particularité de ce temps de Pâques. C'est une grâce que Dieu nous fait. Nous bénissons le Seigneur parce que dans ce temps de confinement, il nous permet d'être avec lui. Le Seigneur ne nous a jamais quittés. Et aujourd'hui, nous célébrons, et il faut le vivre avec vraiment une intensité particulière. Si nous vivons la Pâque et que finalement, c'est comme tout autre événement du monde, où c'est une répétition de choses religieuses, sans que cela ne nous parle de façon spécifique ou de façon personnelle ou de façon poignante, nous passons souvent à côté d'un rendez-vous important avec le Seigneur. Dans l'histoire d'Israël, Dieu a donné régulièrement des moments où le peuple est invité à célébrer des occasions de la manifestation de Dieu. Et la Pâque fait partie de ces moments que Dieu a expressément recommandé au peuple d'Israël de fêter. La majorité des chrétiens qui ont une certaine culture biblique savent que cette fête de la Pâque commémore la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte. Après 4 siècles d'esclavage, Dieu, dans sa grâce, s'est souvenu à nouveau de son peuple. Et ce jour de libération a été en même temps un jour de jugement pour l'Égypte. Parce que ce jour particulier a vu malheureusement, comme dans notre situation présente, a vu malheureusement des morts de nouveau-nés. Dieu avait recommandé aux Égyptiens, surtout au Pharaon, d'incliner son cœur vers lui, de laisser ce peuple partir, pour ne pas que le péché du Pharaon se répercute sur sa première génération. Et ça nous rappelle un texte qui dit que malheureusement les actes des parents, quand ils sont en opposition, en rébellion contre Dieu, peuvent atteindre les enfants. Et dans cet épisode tragique de la sortie de l'Égypte, c'est ce qui s'est passé. Pour que les Israélites et leurs enfants soient préservés, Dieu a demandé et qu'ils célèbrent une fête de départ, qu'ils fasse offrande d'un agneau et qu'ils prennent un peu de sang de cet agneau pour le passer sur le linteau, sur les portiques de leur maison. De sorte que quand ce malheur va frapper l'Égypte, les maisons des Israélites soient préservées. Et c'est ce qui est appelé la Pâque, passer outre. L'ange qui exécutait ce jugement de Dieu, lorsqu'il voyait les maisons avec un sang d'agneau, il épargnait ces maisons-là. Et celles qui n'avaient pas ce sang n'étaient pas épargnées. Parce que Dieu, il est juste, il est bon, il est plein d'amour, mais c'est un Dieu qui avertit. Et nous avons eu l'occasion, lors de toutes ces prédications dans l'Apocalypse, de rappeler combien de fois ce Dieu est un Dieu d'amour, mais combien de fois ce Dieu est un Dieu juste. Qu'il ne prend pas celui qui est coupable pour innocent, et que même le coupable, il lui donne tellement de chance avant d'agir. Et ça a été le cas avec l'Égypte. Il faut vous souvenir que dans l'histoire de l'Égypte, il y a eu 10 avertissements qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Dieu a 10 fois, pendant toute cette période, a essayé de faire revenir Pharaon et son peuple à la raison. Ils se sont endurcis et ils se sont opposés à Dieu. Et à la 10e fois, il y a eu ce jugement. Et le peuple d'Israël a été préservé. Et cette, célébration est un rituel jusqu'à aujourd'hui, même pour les Juifs qui ne sont pas chrétiens, puisque c'était une fête de l'Ancien Testament, ils continuent de célébrer la Pâque, de se souvenir de cette libération de l'Égypte. Et on voit bien, lorsqu'on lit l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 1 à 20, c'est au lendemain du sabbat de la période de la Pâque, que Jésus ressuscite. Et ça a un sens théologique très fort. Je vous invite à relire ce texte, puisque pour ceux qui nous prennent maintenant, on a lu ce texte avec nos monitrices, mais j'aimerais le relire pour nous. Matthieu, chapitre 28, verset 1 à 20. Après le sabbat, comme le jour commençait à poindre le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mit en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante, il se mit à trembler et devint comme mort. Mais l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit, « Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Puis, allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Elles quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie. Elles coururent pour porter la nouvelle aux disciples. Et voici que tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Salut à vous !» Elles s'approchèrent de lui, l'embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Jésus leur dit, « N'ayez aucune crainte. Allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques soldats de la garde retournaient en ville pour faire aux chefs des prêtres leur rapport sur tous ces événements. Ceux-ci convoquaient les responsables du peuple et après avoir délibéré avec eux, versaient aux soldats une somme d'argent avec une consigne. Vous raconterez que ses disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé son cadavre pendant qu'il vous dormiez. Si jamais l'affaire venait aux oreilles du gouverneur, nous saurons lui parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent à ces consignes. Cette version des faits s'est propagée parmi les Juifs où elle est à court jusqu'à aujourd'hui. Verset 16. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Quelques-uns cependant eurent des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Amen. Voilà le texte qui nous est rendu par les témoins oculaires de cet événement miraculeux, la résurrection le jour du lendemain du sabbat. Je disais tout à l'heure, pourquoi Dieu ressuscite Jésus le lendemain du sabbat de la Pâque? Parce que justement, ce n'est pas anodin. Dieu, en le faisant, accomplit une parole claire. C'était Jésus qui était la vraie Pâque. Et c'était Jésus qui devait mettre fin au régime de l'Ancien Testament. Le fait que Jésus ressuscite le troisième jour, le lendemain du sabbat de la Pâque, c'était une confirmation de Dieu qui signifiait que toutes les fêtes de l'Ancien Testament ont désormais leur réalité qu'en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la nouvelle réalité. C'est Jésus-Christ qui accomplit tout. Il a dit, n'est-ce pas? Quand on lit l'évangile de Matthieu, il a dit, « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » N'est-ce pas? Et sur la croix, dans l'un des évangiles, avant qu'il ne rende le souffle, il a dit, « Tout est accompli. » En Jésus, tout est accompli. quand nous savons qu'Isaïe avait prêché, avait annoncé que malheureusement, il serait percé, ce Jésus. Il serait substitué aux coupables que nous sommes. Il allait endurer à notre place le châtiment du péché. Mais lui, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait nous procurer la guérison des conséquences de nos fautes. Isaïe avait dit encore, toujours dans ce chapitre 53 d'Isaïe, il avait souligné, au lieu de vivre dans la communion de l'Éternel et d'obéir à ses commandements, chacun vivait bon comme il lui semblait, loin de l'Éternel. C'est pourquoi la souffrance expiatoire du serviteur était nécessaire. C'est pourquoi la souffrance de Jésus était nécessaire pour ramener les brebis perdues vers le Père. Jésus accomplit la Pâque. C'est par lui que désormais Dieu fait grâce aux hommes. C'est par Jésus. Pourquoi 3 jours aussi? Pourquoi 3 jours? On se pose cette question. Mais justement, ces 3 jours sont un accomplissement. Un accomplissement des prophéties. Déjà, de ce qu'on appelle l'espérance d'Israël. Cette espérance avait été dite au travers d'un prophète, le prophète Osée, dans le chapitre 6, versets 2 à 3. Osée avait dit, « Venez et retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos blessures. Après 2 jours, il nous aura rendu la vie, et le 3e jour, il nous relevera et nous vivrons sous son regard. » Jésus accomplit cette espérance, parce qu'il ressuscite le 3e jour. Jésus accomplit toute l'espérance qui était tendue dans l'Ancien Testament. C'est lui qui amène cette espérance à son jour. C'est lui, l'étoile brillante du matin, qui apporte cette espérance à toute l'humanité. Depuis tous ceux de l'Ancien Testament jusqu'à ceux de toutes les, jusqu'à son second retour, n'est-ce pas? 3 jours aussi nous rappellent un signe. Et Jésus lui-même, il a dit, le signe de Jonas. Jonas, ce prophète que Dieu envoyait vers un peuple non-juif, un peuple païen cruel, et qui avait refusé d'y aller, et qui avait été avalé par un poisson. Jonas a demeuré dans le vent du poisson pendant 3 jours avant d'être craché. Et Jésus a ce même signe divin. Lui, ce n'est pas un poisson qu'il avale, c'est les ondes de la mort. Pendant 3 jours, il est dans les ondes de la mort. Et il ressuscite victorieux de ces ondes de la mort pour confirmer que comme le prophète Jonas, Jésus est encore plus que Jonas. Toutes ces actions de Jésus sont là pour nous montrer, par la grâce de Dieu, qu'il est l'accomplissement de toutes les prophéties qui avaient été faites dans tout l'Ancien Testament. C'est lui qui les accomplit. Tout est accompli, dit Jésus. Et c'est pour cela que tous ces événements ont un poids si fort. Le poids de ce témoignage est un témoignage vivant. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas vu par quelques personnes seulement. On voit qu'il y a plusieurs témoins de cette résurrection, n'est-ce pas? Il y a d'abord les femmes qui sont allées au tombeau. Et qu'est-ce qu'elles ont vu au tombeau? Elles ont vu cet ange, n'est-ce pas, qui leur est apparu et qui leur a parlé et qui leur a dit, n'est-ce pas, des paroles assez fortes, des paroles assez claires sur l'avènement de Jésus. D'abord le ciel. Le ciel témoigne de la résurrection parce que c'est un ange qui descend du ciel. On voit que dans le ministère de Jésus, des anges ont manifesté leur présence quelques rares fois, mais ils ont été là avec le Seigneur Jésus. Mais on voit que pendant toute la période de la montée à Jérusalem, ce dernier week-end, ce dernier parcours à Jérusalem, encore à Gethsémané, il est supporté par des anges, disent les évangiles. Et après cela, aucun autre ange. Il aura cette parole, il dira lorsque ses juges vont lui demander, mais tu n'as aucune parole à dire, tu ne sais pas qu'on peut te libérer. Il aura cette parole en disant, c'est pour 7 heures que je suis venu. Si j'avais voulu être libéré, actuellement il y a des myriades d'anges qui sont postés, qui sont prêts à intervenir. Mais je suis venu pour 7 heures. Et les anges ne sont pas intervenus. Mais quand Jésus accomplit son ministère, en vainquant la mort, l'ange, Dieu envoie un ange pour rouler la pierre, pour être l'annonciateur. Les anges sont témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Vous vous souvenez que dans le texte de l'Apocalypse dont nous avons parlé, c'est aussi des anges qui sont les serviteurs de Jésus. C'est Jésus qui déroule les sceaux, mais ces consignes sont données à des anges. Et ces anges sont là pour témoigner que Jésus est le maître de l'univers et qu'ils sont là à son service. Ensuite, les disciples, les femmes sont témoins de cette résurrection, n'est-ce pas? Et l'ange qui leur parle dit, il est ressuscité comme il vous l'avait dit. Quand Jésus dit quelque chose, cela s'accomplit. Les disciples qui ont marché avec Jésus, certainement qu'ils étaient bien encouragés de ces paroles de Jésus lorsque Jésus disait, mais je vous l'ai dit, il a dit à trois fois à ses disciples, je vais être livré, on va me juger, on va me condamner, on va me tuer, mais je ressusciterai le troisième jour. Est-ce qu'ils ont tout compris? On se rend compte que non. Et là, l'ange dit, il est ressuscité comme il a dit. Bien-aimé, c'est une parole très forte qui vient d'un messager du ciel qui confesse que quand Jésus dit quelque chose, la chose va certainement s'accomplir. Il a dit qu'il allait ressusciter et Dieu l'a ressuscité. Et l'ange dit aux femmes, mais venez, venez, soyez témoins vous-même, venez visiter ce tombeau, venez voir, il n'y a personne, le tombeau est vide. Et c'est ce qu'elles font. Et ensuite, elles sont envoyées en mission pour aller annoncer. Plus tard, dans les épîtres, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 6, va nous dire qu'il n'y a pas que ces quelques personnes qui ont vu Jésus ressuscité. Il n'y a pas que les 12 qui ont vu Jésus ressuscité. L'apôtre Paul va nous dire qu'il y a plus de 500 disciples qui ont vu le Christ ressuscité. 500 disciples. Pour attester que cette résurrection n'était pas le fruit de l'esprit des disciples. Ce n'était pas une invention comme on le voit dans le texte. Comme il a été dit aux soldats par les chefs de l'époque, les chefs religieux de l'époque, allez dire à tout le monde qu'en fait, il n'est pas ressuscité, mais on l'a volé de nuit. On a volé son corps de nuit. Non, 500 témoins oculaires ont vu ce Jésus ressuscité. Alléluia. La résurrection n'est pas un fruit de l'esprit. La résurrection, dans le sens où ce n'est pas une imagination de l'esprit humain, ce n'est pas une imagination des disciples. C'est une réalité vécue. 500 personnes ont été témoins. Et même les gardes, les ennemis de Jésus sont témoins. Ces soldats romains sont témoins. Ils ont vu l'apparition de l'ange. Ils ont même fui, ils ont été terrorisés. Et c'est eux qui vont dire aux chefs religieux, c'est Jésus, un ange est venu nous dire et nous sommes témoins de cette apparition miraculeuse, il est ressuscité. Et ils vont leur dire, taisez-vous, racontez pas cette version-là, racontez plutôt la version que nous vous donnons et nous vous donnons un pot de vin pour cela. Et dans un autre évangile, même la nature est témoin de la résurrection de Jésus. Puisque la terre va trembler. Même le temple de Jérusalem est témoin de la résurrection, puisque le rideau qui sépare le lieu très saint du lieu saint va se fondre du haut en bas. Bien-aimés, c'est vrai que devant ces textes, parfois, nous pouvons être, oh, c'est une belle histoire. Ouais, peut-être que ça existait, peut-être pas. La Bible nous atteste que la résurrection de Jésus a bel et bien eu lieu et qu'il y a eu des témoins de cette résurrection. Que Dieu fortifie notre foi dans cette résurrection du Fils de Dieu. L'apôtre Paul dira, si Jésus n'est pas ressuscité, ben ça ne vaut plus la peine d'avoir la foi. Parce que si la résurrection n'a pas eu lieu, notre espérance, elle aussi, n'a pas de raison d'être. Jésus, il est ressuscité. Jésus-Christ est vivant. Il est le souverain. Cette résurrection est un accomplissement encore d'une prophétie de l'Ancien Testament. Daniel, dans le chapitre 7, au verset 14, il dira, on lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Tous les peuples, les nations et les langues se mirent à le servir. Sa domination durera toujours. Elle ne passera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Daniel, chapitre 7, verset 14. Et comment on sait que cette parole de Daniel est accomplie? Parce que quand Jésus retrouve les disciples en Galilée, la première parole qu'il leur dit, c'est « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » Il cite exactement le prophète Daniel. Il cite cette prophétie de Daniel. Il dit en fait, ce que Daniel a dit dans son chapitre 7, verset 14, c'est moi qui l'accomplis. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » Il est le roi. Il est celui qui règne. Comme nous l'avons aussi vu dans Apocalypse chapitre 5, l'agneau de Dieu est celui qui règne et celui qui est seul digne de connaître le cours de l'histoire de la création. Désormais, parce qu'il a obéi, jusqu'à la mort de la croix, Jésus a reçu à nouveau cette autorité qu'il avait sur le royaume de la terre, mais partout dans l'univers, sur toute la création. Ésaïe aussi avait parlé de ces choses. Ésaïe a dit, moi je vous les annonce maintenant, 7 siècles avant, pour que quand ça va se réaliser, pour que vous sachiez que ces choses, on avait annoncé bien avant qu'elles ne se réalisent. Ésaïe 41, verset 26, il dit, qui l'a annoncé dès le commencement pour que nous le sachions, et longtemps d'avance pour que nous disions c'est vrai. 42, verset 9 à 23, il dit, voici, les premières choses se sont accomplies et je vous annonce de nouvelles avant qu'elles n'arrivent. Je vous les prédis. Qui parmi vous prêtera donc l'oreille? Qui sera attentif pour écouter à l'avenir? Ésaïe disait déjà, les choses que je vous dis là vont se réaliser. Et chapitre 53 de Ésaïe, on connaît ce chapitre qui parle de ce serviteur souffrant qui décrit le ministère de Jésus-Christ. Jésus-Christ se substituant aux coupables, le serviteur endurera à leur place le châtiment du péché, puis il ressuscitera pour leur procurer le pardon des péchés, la justification et la guérison des conséquences du péché. À Pâques, bien-aimé, Jésus-Christ a accompli cette prophétie annoncée avec précision 7 siècles avant sa manifestation. Tous ces éléments sont là pour nous rappeler que ce que Dieu nous dit dans sa parole est vrai, bien-aimé. L'Ancien Testament avait annoncé des choses que Jésus a manifestées. En sa mort, en sa souffrance, Jésus-Christ a porté le péché de l'humanité. Il nous donne la guérison de notre péché. Il nous apporte le salut. Il nous apporte un cœur nouveau. La question, ce n'est pas est-ce que nous croyons. La question, c'est comment nous persévérons dans cette vérité. Parce qu'avant qu'il ne rentre dans son ministère de souffrance, avant cette dernière semaine de Jérusalem, dans Luc le chapitre 18, il avait eu cette expression assez triste. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, Luc 18, verset 8, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore des gens qui auront confiance que la Bible est la parole de Dieu? Trouvera-t-il encore des hommes et des femmes qui croiront dit comme fait que ce que ce texte dit, que ce que cette parole dit est parole de Dieu? Ce que les anciens prophètes avaient prophétisé s'est réalisé en Jésus-Christ. Nous, nous sommes les chrétiens du Nouveau Testament. Est-ce que nous avons cette conviction-là? Jésus dit, malheureusement, les gens vont oublier Dieu. Luc 17, verset 26 à 27. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Luc 17, 28 à 29. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Matthieu 24, il dira au verset 12, de 10 à 12, il dira, quand la tribulation, quand les épreuves, quand les difficultés, quand le monde sera bien embêté par des situations comme celles que nous vivons, malheureusement, l'amour du grand nombre se refroidira. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du grand nombre se refroidira. Devant cette Pâque qui est un jour de victoire, qui est un jour où nous l'avons vu, la mort de Jésus, sa résurrection sont des faits historiques attestés par les Écritures. Les apôtres ont pris littéralement les recommandations de Jésus dans le chapitre 28 que nous avons lu à partir du verset 19. Il leur a dit, allez par tout le monde, annoncez cette bonne nouvelle parce que c'est celle-là qui est la vérité. Moi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Quelle est ta conviction sur la résurrection de Jésus? Quelle est ta conviction sur la parole de Dieu? Quelle est ta conviction sur ta marche chrétienne? Quelle est ta conviction par rapport à la présence de Dieu dans un monde qui dit il n'existe pas? Dans un monde qui dit, mais si Dieu existe, pourquoi il y a tant de malheur? Dans un monde qui dit, mais votre Dieu, où est-il? Et puis nous vivons cette situation difficile de coronavirus. Est-ce un châtiment? Où a-t-il abandonné le monde? Est-ce que votre Dieu est un Dieu d'amour? Est-ce qu'il est vraiment gentil? Est-ce que c'est un Dieu qui ferme les yeux sur le malheur, qui frappe des innocents? parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Quand ce jour de résurrection, ce jour de victoire, que Dieu nous aide, bien-aimés, à revisiter notre confiance dans la parole de Dieu, à revisiter notre confiance dans la présence de Jésus. Parfois, il nous arrive, et moi avec, de dire, Seigneur, où es-tu? Manifeste-toi. Et pourtant, il nous a clairement dit dans ce chapitre, à la fin, et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. La foi, c'est se fier à Dieu, avoir confiance, s'abandonner à lui, s'abandonner à lui et à ses prescriptions dans la parole de Dieu. C'est prendre Dieu au mot de sa parole, de la Bible. Et la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que notre foi, que notre confiance s'appuie sur cette parole. Terminons avec ces deux versets. Jésus a laissé un tombeau vide. Il était bel et bien mort, il est bel et bien ressuscité. Le témoignage de la création des disciples, des ennemis de Jésus atteste qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Jésus-Christ est vivant, il règne. Nous l'avons vu dans Apocalypse chapitre 5, dans cette vision de l'apôtre Jean. Jean a vu Jésus, l'agneau immolé, qui présidait au trône de Dieu et qui était le seul digne de recevoir le livre de notre humanité. Jésus-Christ est vivant, bien-aimé. Comment on s'imagine ça? Je ne sais pas. Moi, je sais comment j'imagine que Jésus-Christ est vivant. Mais au-delà de mon imagination, je sais que ma vie, là où je suis aujourd'hui, est le fruit de la présence de Dieu. Si Jésus n'existait pas, je ne serais pas là aujourd'hui. Dieu seul sait où je serais. Je suis un témoignage que Jésus-Christ est vivant. Vous êtes un témoignage que Jésus-Christ est vivant. Vos vies sont un témoignage que Jésus-Christ est vivant. Si quelqu'un demande la preuve que Jésus-Christ est vivant, ben vous pouvez dire la preuve, c'est moi. Car ce Christ, il m'a rencontré et il fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Christ est vivant, Christ est ressuscité. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 26 dit, « Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « C'est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe après le dîner en disant, « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. Quand le temps nous sera donné de nous renouveler, de nous rassembler dans notre lieu de culte, nous célébrerons à nouveau. Parce que cette célébration, elle se fait pendant que l'Église est rassemblée physiquement pour vivre quelque chose d'intense, spirituel et fort de cette communion en nous rappelant que nous communions au serviteur souffrant, celui qui par amour a donné sa vie, qui a souffert pendant 6 jours terribles. Il a pu dire à Gethsémané, je suis angoissé jusqu'à la mort. Il a été mis au banc des criminels. On lui a fait subir toutes les ignominies qu'on peut subir au plus vil des criminels, alors qu'il était innocent. Alors qu'il était innocent. Bien-aimé, quand nous communions à cette mort, mais bien plus, quand celui qui était mort est ressuscité et qu'il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, c'est une victoire. Et cette victoire, quand nous nous rassemblerons à nouveau, nous la célébrerons avec une intensité peut-être nouvelle dans la scène. Le dernier verset, Colossiens chapitre 2, versets 12 à 15. Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême. Et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscité avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé cet acte, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, car il les a traînés dans un cortège triomphal après sa victoire à la croix. Jésus est vainqueur, bien-aimé. Jésus est celui qui est le victorieux. Jésus est celui qui a vaincu le mal, qui a vaincu les principautés, qui a vaincu les dominations. Jésus, que le Seigneur nous aide, que nous soyons attachés à Jésus, que nous puissions prier en disant que cette commémoration de ta résurrection me donne un souffle nouveau dans ma foi, que ma confiance en toi se renouvelle, que ma confiance à ce que la parole de Dieu dit, à ce que la Bible de Dieu se renouvelle. Je veux marcher en nouveauté de vie avec toi. Je veux, voilà, vivre comme une nouvelle résurrection, me renouveler dans ma foi avec toi, Jésus. Puisse l'Église prier de la sorte. Puisse l'Église prier aussi pour que cette résurrection impacte le monde qui ne connaît pas Dieu. Car il a dit à la fin de ce Matthieu 28, allez par tout le monde, allez par toutes les nations. Faites des nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Que Dieu soit notre force bien-aimée. Que Dieu soit celui qui nous guide et qui nous encourage. Que ce jour de la résurrection soit un jour de renouvellement pour chacun, pour chacune d'entre nous. Que l'Église soit renouvelée. Que dans cette période de confinement, que l'Église reste confiante en son Dieu. Que l'Église soit attachée à son Dieu. Que les chrétiens aient confiance au ressuscité, car il est vivant et il règne. Amen. Voilà le message que nous voulions partager ce matin avec le peuple de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous sommes tes enfants et nous sommes au bénéfice de ta grâce. Merci pour cette grâce qui est une puissance, qui libère du péché. Tu nous as libérés du péché et tu continues d'être avec nous. Renouvelle ton Église, renouvelle-nous. Garde-nous confiants en toi. Garde ton Église confiante en toi. Et nous continuons d'intercéder. Car toi qui es le ressuscité, tu as pris nos meurtrissures, tu as pris nos maladies, et c'est toi qui fais office d'intercesseur. Aie pitié de ton monde. Tu as dit que tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre et sur toute la création. Fais grâce, toi qui as tout pouvoir. Aie compassion de notre monde qui gémit actuellement malgré son indifférence parfois. Aie pitié de ton monde, notre Dieu. Et donne à l'Église de rester dans la foi, dans la confiance avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà comment le Seigneur a voulu que nous soyons encouragés aujourd'hui avec ce culte, hein, cette louange avec la famille Zali, ce temps d'exhortation de nos enfants avec nos monitrices qui ont été aujourd'hui symbolisées par Rachel et Eunice, et puis ce message que j'ai eu le privilège et la grâce de partager avec vous, ce message qui me fortifie personnellement et je prie qu'il en soit de même pour chacun et chacune d'entre vous. Avant de passer peut-être un temps de nouvelles où nous pouvons prendre les nouvelles les uns des autres, je vais laisser la parole à Émile pour la bénédiction et après nous prendrons des nouvelles et si éventuellement nous avons des annonces, nous les ferons. Nous prions avec Émile.